Bonjour à chacun, bienvenue dans ce culte. Vous devez vous demander où nous sommes. Autre façon de vivre le culte, autre lieu. En quelque sorte, nous nous sommes mis au vert dans le local du groupe de jeunes, le groupe CTT. Pendant 4 dimanches, nous allons être plongés dans la vie du peuple d'Israël avec le livre de Ruth. C'est pour cela, pour nous mettre dans l'ambiance de ce livre, dans l'ambiance d'Israël, que je vous propose d'écouter une musique en hébreu interprétée par des artistes israéliens. Nous écoutons « Evenu Shalom Alerem »« La paix soit sur vous ». Que la paix de Dieu soit sur vous, sur chacun d'entre nous.
Evenu Shalom, Evenu Shalom. Evenu Shalom.
Ce chant nous entraîne dans la joie. Nous sommes dans la joie parce qu'il n'y a pas que le coronavirus. Nous nous réjouissons parce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui se présente là où on pense impossible de la vivre, cette paix-là existe pour de vrai. En ce début de culte, il est bon de nous souvenir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes sous la bannière de l'amour de Dieu qui prend soin de nous, malgré ce que les circonstances peuvent nous faire croire. De plus, au-delà de la restriction de nos relations sociales, au-delà de nos différences, au-delà de nos circonstances particulières, des liens fraternels nous unissent. Nous ne sommes pas seuls. Il y a Dieu. Mais il y a aussi nous, vous, par qui l'amour de Dieu passe, par qui l'amour de Dieu devient réel, concret, consistant. Nous chantons « Chaîne d'amour ».
Nous sommes les siens.
Maintenant, Dieu notre Père, de tourner nos cœurs vers Jésus le Christ qui nous rejoint, comme on passe par une naissance. Il vient dans le sable de nos chemins, questionner ce qui nous fait mal et nous retient dans le passé. Il nous donne de parler de ce que nous avions cru comprendre, de ce que nous avons espéré. Présence invisible mais sûre, qui recueille le poids de ce que nous portons. Dans le matin qui se lève, au mot boueux de notre fatigue, il accroche une parole de lumière qui va devenir pain rompu et partagé. Présence invisible mais sûre, qui brûle au cœur de nos cœurs. Et le chemin devient plus clair, les cailloux plus doux, non qu'ils aient disparu, mais il ne blesse plus comme avant, car quelqu'un est là qui nous emmène vers plus de légèreté. Présence invisible mais sûre qui souffle ta vie en nos vies. Pour le chemin qu'il ouvre sous nos pas, pour la communauté que nous formons, pour le monde qu'il nous donne à aimer, que pouvons-nous te dire, ô Père ? Sinon ce merci de louange par lequel nous rejoignons le chant de toute l'Église. Un texte de Lita Basset. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous aimerions te remettre ce culte et te remettre chacune de nos personnes, parce que chacun nous avons besoin de toi, de sentir ta présence au fond de nos cœurs, d'entendre une parole qui nous rejoint. Nous pensons à tous ceux qui sont là devant leur écran, mais aussi à tous ceux qui ne peuvent pas nous regarder. Sois avec eux, Seigneur. Merci parce que ton Saint-Esprit nous accompagne et fait vivre ta parole en nous. Amen.
Bonjour à chacun, je me réjouis de me retrouver avec vous ce matin en cœur et en pensée. L'Église continue sous une autre forme, c'est vrai, mais elle reste bel et bien vivante du moment qu'on se réunit au nom de Jésus. Et nous allons passer un petit moment ensemble autour de sa parole qu'on peut partager sans fin. Alors je vous propose qu'on y aille déjà comme ça. La nuit est tombée sur Bethléem. Et non, je ne vais pas vous parler d'un récit sur la nativité, Mais à quelques semaines de Noël, effectivement, nous vous proposons, Philippe et moi, de vous emmener avec nous dans la découverte d'un autre texte qui se trouve dans la ville de Bethléem. Il s'agit du livre de Ruth. Je vous propose de lire avec moi le chapitre 1 du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem, en Juda, partit avec sa femme et ses deux fils. Ils immigrèrent pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec, le mari de Noémie, mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là-bas pendant 10 ans. Malon et Kilion mourirent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors Noémie se leva, elle et ses 2 belles-filles, et quitta le pays de Moab pour revenir chez elle. Elle avait en effet appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Elle partit de l'endroit où elle se trouvait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et allèrent sur le chemin du retour vers le pays de Juda. Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Que le Seigneur permette à chacune de vous de trouver la sécurité, celle d'une femme dans la maison de son mari. » Puis elle les embrassa. Elles élevèrent leur voix et se mirent à pleurer abondamment et lui dirent « Non, nous t'accompagnons. Avec toi, nous retournerons auprès de ton peuple. » Noémie reprit « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Rentrez chez vous, mes filles. Allez! Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a encore de l'espoir pour moi, cette nuit même, je serai avec un homme qui me donnera des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles. Ma situation est plus amère que la vôtre, car la main de Dieu s'est abattue sur moi. » Les 2 belles-filles élevèrent la voix et pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère avant de la quitter, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit à Ruth, « Regarde ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne chez toi, prends exemple sur ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « N'insiste pas pour que je t'abandonne, pour que je rentre chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterrée. Je le jure par le nom du Seigneur, seule la mort me séparera de toi. » Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée suscita de l'émotion dans toute la localité. Les femmes s'exclamaient « Est-ce vraiment Noémie ?» Elle leur déclara « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car Dieu, le Dieu souverain, m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie alors que le Seigneur s'est tourné contre moi et que le Dieu souverain a causé mon malheur ? » C'est ainsi que Noémie revint du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite. Et elles arrivèrent à Bethléem au début de la récolte de l'orge. Ouvrir le livre de Ruth, c'est entrer de plein fouet dans un désastre, dans une crise qui bouleverse une nation, une famille, une femme qui a tout perdu. Le livre de Ruth s'ouvre à l'époque des juges en Israël. Il s'agit d'une époque qui se situe entre l'entrée des Hébreux sur la terre promise, après l'Exode, et l'instauration du système royal en Israël avec le roi Saül et ensuite le fameux roi David. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la période des juges est chaotique. Ce livre des juges, que je vous invite d'ailleurs à lire en parallèle du livre de Ruth, nous montre que la justice de Dieu, du Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, est extrêmement difficile à appliquer depuis que les Hébreux sont entrés en terre promise. Les choses ne vont pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Les juges n'appliquent pas la justice ou très peu. Ils ne la promeuvent pas. Ou en tout cas, plus les juges s'enchaînent dans le livre des juges, moins on voit la justice de Dieu s'appliquer pour son peuple. Et c'est dans cette période de doute et de grand drame qu'une histoire parallèle nous est racontée, l'histoire de Ruth. À Bethléem, il n'y avait plus rien à manger. Bethléem, en hébreu, ça signifie la maison du pain. Et il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Le pain est aussi une symbolique juive forte pour parler de la justice de Dieu. On peut dire que dans cette période, il n'y avait pas non plus de justice parmi ce peuple qui avait été fondé justement sur la loi de Dieu. Notre histoire s'ouvre sur cette terre d'Israël, mais très vite les circonstances tragiques vont pousser les personnages à immigrer sur une terre étrangère. Une famille va quitter une terre qui ne les nourrit plus, qui n'offre plus de justice. C'est ainsi qu'Élimélec, Noémie, Naomi aussi, comme on dit, et leurs deux fils, Malon et Kilion, partent s'installer au pays de Moab, de l'autre côté de la mer Morte, afin de vivre une vie meilleure. Malheureusement, la mort va les rattraper. Noémie devient veuve, car Élimélec meurt. Elle n'avait plus que ses deux fils. Malon et Kilion vont tout faire pour s'intégrer dans leur nouvelle patrie en épousant deux Moabites, Orpa et Ruth. 10 ans plus tard, il ne restera que ces trois femmes, trois veuves. Une tragédie qui se déroule dans les 5 premiers versets d'ouverture du livre de Ruth. 5 versets qui nous laissent présager rien de bon. La crise s'offre au lecteur dès le début du livre, sans qu'on sache pourquoi. Les pourquoi, en temps de crise, sont nombreux. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi cette calamité me tombe-t-elle dessus? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Qui blâmer? On cherche un responsable. On cherche la justice, là où on ressent une profonde injustice. C'est, je le crois, les questions qui se sont emparées de Naomi face à sa tragédie personnelle. Naomi a perdu, a tout perdu. Elle a perdu son mari, ses deux fils, son pays. Elle s'est retrouvée seule avec ses deux belles-filles, 3 veuves isolées, dont l'avenir était incertain. Naomi n'avait pas d'autre choix que de repartir sur sa terre natale, en espérant y retrouver peut-être la justice protectrice du Seigneur. Elle avait entendu dire que les choses s'étaient améliorées et que Dieu avait donné du pain à son peuple. Mais si Naomi pouvait espérer peut-être un peu de justice pour elle, elle savait qu'elle ne pourrait rien offrir à ses deux belles-filles, Orpa et Ruth. Pas de descendance pour leur offrir la protection du mariage, pas de conditions de vie stable. Et les Moabites n'étaient surtout pas les bienvenus parmi le peuple d'Israël. C'est avec le cœur déchiré que Noémi offre à celles qui étaient devenues comme ses filles la possibilité de refaire leur vie dans leur pays. Il y avait dans cette union de femmes quelque chose de profondément vibrant. Elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas les mêmes origines, elles n'ont pas les mêmes croyances et n'ont pas les mêmes attentes de la vie. Et pourtant, elles sont unies dans un attachement mutuel très fort. Orpah, pourtant, va renoncer à accompagner Naomi. Vivre en Israël est vraiment trop dur. Quant à Ruth, elle ne va pas renoncer. Dans ce lien avec Naomi, il va se dérouler quelque chose qui va faire basculer la vie des deux femmes, la vie du peuple d'Israël et même le cours de l'humanité. Quelque chose d'inédit se met en route au moment où l'on croyait que tout était fini, que le drame avait tout anéanti. Ruth, une étrangère, va faire preuve d'un amour peu commun. Elle décide d'être présente au milieu de la solitude de sa belle-mère. Ruth va comme conclure une alliance avec sa belle-mère Naomi. Elle décide de s'attacher à elle. « Là où tu iras, j'irai. » Elle décide de quitter ce pays de Moab pour s'installer dans un pays qui lui est hostile. « Là où tu habiteras, j'habiterai. » Elle décide de prendre une nouvelle identité. Elle ne sera plus Moabite, elle sera Israélite. « Ton peuple sera mon peuple. » Elle décide de s'attacher entièrement au Dieu d'Israël, qu'elle ne connaît pas, par amour pour sa belle-mère. « Ton Dieu sera mon Dieu. » Tant que Ruth respirera sur cette terre, sa vie sera attachée à celle de Naomi, de son peuple et de son Dieu. C'est au travers de cette étrangère que l'on voit se dérouler la justice de Dieu. Là, au temps des juges, où justement cette justice avait énormément de peine à être appliquée. Dieu n'est pas explicitement présent dans ce texte. C'est Naomi qui en parle, principalement en disant surtout que Dieu l'a frappée de malheur. Naomi était partie plutôt prospère d'un pays en pleine famine. Il revient dans un temps de prospérité en étant pauvre. Ses amis d'autrefois ont de la peine à y croire. Comment a-t-elle pu tomber aussi bas? Revenir sans époux, sans fils et avec que seule compagnie, cette jeune veuve moabite. Voici ce que dit Naomi. Elle leur déclara « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu souverain m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines, et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie, alors que le Seigneur s'est tourné contre moi et que le Dieu souverain a causé mon malheur ?» C'est ici que l'action de Dieu est mentionnée. Il a frappé Naomi, lui le Dieu souverain, le El Shaddai en hébreu. À cause de lui, Naomi est devenue Mara. Partie heureuse, elle rentre affligée. Et comme seul bien, elle a une belle fille étrangère, une Moabite, qui a engagé sa vie entière pour elle. L'impression d'absence de Dieu dans ce texte n'est qu'une fausse impression, évidemment. Il y est totalement présent. Et Ruth est celle qui ramènera la justice de Dieu dans la vie de Naomi et de son peuple. Car Ruth, ne l'oublions pas, face aux malheurs qui ont frappé sa belle-mère, a tout de même choisi de s'attacher au Dieu d'Israël. Le Dieu de tous les possibles, le Dieu éternel. Dieu souverain est celui qui réalise sa promesse. L'achèvement de l'œuvre de Dieu va au-delà du malheur. Le malheur n'arrête aucune des promesses de Dieu. Et il est bon de nous le rappeler dans cette période que nous vivons. La justice de Dieu suit son cours. Même si la vie nous fait prendre des méandres inconfortables, déboussolants, décourageants. La main du Dieu souverain reste toujours à l'œuvre avec une maîtrise qui dépasse notre compréhension. Nous ne comprenons pas Nous avons des milliers de pourquoi, des millions d'inquiétudes. Sommes-nous abattus? Sommes-nous affligés dans cette période de pandémie? Sans doute que oui. Mais tous les jours, nous faisons des actions qui peuvent nous paraître anodines. Ces actions sont une porte ouverte à bien des surprises. Un téléphone à un ami qu'on ne peut plus voir, évidemment. Se brancher sur le site de l'église pour suivre le culte. Se réunir ensuite sur la plateforme Zoom pour partager ensemble et prier. Se soutenir mutuellement alors que nous vivons tous les uns après les autres des quarantaines. Garder contact les uns avec les autres. Toutes ces choses qui nous paraissent peut-être banales sont des portes ouvertes à des choses surprenantes. Et surtout, c'est une manière de croire que les choses continuent, même si on avance à tâtons et à l'aveugle. Dieu est à l'œuvre, et il est le Dieu souverain, et son œuvre, il l'achèvera, pandémie ou pas. Ruth était cette porte ouverte à l'inattendu de Dieu. Personne n'aurait misé quoi que ce soit sur elle. Mais elle, elle a tout donné pour sa belle-mère. Et vous verrez plus tard que quelqu'un d'autre verra en elle le possible de Dieu. Il y a toujours de l'espoir. Et la foi nous pousse à aller de l'avant, à être curieux sur ce qui vient ensuite. Les signes de vie, c'est vrai, ne sont pas nombreux dans ce texte. Mais peu importe, il y en a. Ruth est partie avec sa belle-mère là-bas à Bethléem. Que pouvait-elle espérer recevoir là-bas? À ce stade de l'histoire, on ne le sait pas. Et c'est assez angoissant. Mais il y a cette dernière phrase à la fin du chapitre. Je vous la lis. C'était la saison de la moisson de l'orge. Une saison de moisson, c'est plutôt une bonne période. Il y a de quoi se mettre sous la dent. Pour tous ceux qui ont de l'appétit et qui ont faim de voir Dieu à l'œuvre, je vous dis, suite au prochain épisode, chapitre 2, avec Philippe dimanche prochain. Dieu ne nous lâche pas. Il continue à veiller sur son œuvre et sur son Église. Accrochons-nous chaque jour à lui et voyons ce qui vient ensuite. Amen.
Seigneur, nous te remettons nos vies dans ces circonstances particulières. Nous te les remettons avec les mille inquiétudes qui fourmillent en nous, avec nos tristesses, nos crispations, nos soucis pour nos proches. Viens nous aider dans notre vie de chaque jour à voir ta présence malgré les circonstances. Nous te remettons ceux qui sont malades, afin que et tout le personnel soignant qui s'occupe d'eux, afin que tu sois avec chacun d'entre eux. Et nous te remettons notre monde, où le monde entier souffre de cette pandémie, où d'autres souffrent de la guerre, où d'autres souffrent de la famine. Seigneur, notre monde a besoin de toi, a besoin de justice, a besoin que nous osions être qui nous sommes, tes enfants. Seigneur, sois avec nous. Amen. Pour l'offrande, nous vous remercions de votre générosité renouvelée mois après mois. Comme d'habitude, vous pouvez faire votre offrande par tweet ou sur le CCP de l'Église, dont vous trouvez les coordonnées sur notre site.
Pour conclure ce culte, je vous propose une bénédiction à lire dans le psaume 23, que vous connaissez sans doute. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans de verts pâturages. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Le Seigneur m'accompagne. Le Seigneur vous accompagne, ne vous lâche pas. Son projet, il le réalisera. Recevez sa grâce et sa force dont vous avez besoin au quotidien. Bonne semaine. Amen.
À part ça, nous nous retrouvons comme d'habitude, comme la nouvelle habitude pour un culte autrement dimanche prochain avec Philippe Ponchaud dans le livre de Ruth.